Bonjour à tous et à toutes, je suis Véronique Brard, enseignante en Voss Dialogue. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler du mental rationnel. Le mental rationnel est une copersonnalité présente chez chacun de nous, même si nous le reconnaissons rarement comme l'une de nos copersonnalités. Le but de ce podcast est de mieux le connaître pour pouvoir le reconnaître et apprendre à le faciliter. Lorsqu'une personne se différencie de son mental rationnel, un monde plus large s'ouvre à elle, celui de l'énergie subtile, de la perception intuitive, de la magie, celui du monde invisible pour nos cinq sens. Il existe une différence entre le mental rationnel très linéaire qui ne tient pour réel que ce que nos cinq sens perçoivent, et le mental supérieur, capable de se connecter à l'invisible, réceptif aux énergies subtiles et aux phénomènes mystiques et spirituels. Nous allons parler dans ce podcast uniquement du mental rationnel. Dans cette première partie, nous allons voir quelle est sa fonction, quels sont ses alliés et ses opposés. Opposés qui sont souvent dévalorisés dans une personnalité où existe une identification au mental rationnel. Nous finirons cette première partie par la transcription d'une facilitation inventée par Al et Sidra, dans laquelle Sidra facilite un homme extrêmement rationnel. Nous verrons comment Sidra se sert du lien énergétique pour amener cet homme à se différencier de son mental. Apprécier son mental et pourtant se différencier de lui est l'enjeu. Une copersonnalité exceptionnelle. Le mental est rarement considéré comme une copersonnalité tellement il est prédominant dans notre civilisation occidentale. Pourtant, il est bel et bien une de nos copersonnalités et l'une des plus importantes. Par rapport à lui, nous sommes un peu comme le poisson qui ne sait rien de la mer. Il est cette part de nous qui aime penser, comprendre, analyser, apprendre, s'informer, savoir, expliquer, prévoir, supposer et se représenter les choses. Avec lui, nous pouvons penser de façon abstraite. Il est heureux quand il pense avoir toutes les réponses et qu'elles sont rationnelles. Un mental performant pense qu'il sait absolument tout ce qu'il y a à savoir et que ce qui n'est pas de son ressort est superflu et inutile. Quoi qu'il se passe dans notre vie, il observe, nomme, recueille et analyse les informations. Il classe toutes ces informations, les range par catégorie et tente de rendre le monde compréhensible et cohérent. Il gère aussi tous nos problèmes. Il aime se concentrer sur un problème particulier, y réfléchir, le décomposer, l'examiner sous tous ses angles et trouver une solution. Le mental peut avoir une patience et une discipline infinie quand il s'agit de comprendre ou de résoudre un problème. Il évalue tout ce qui se passe dans notre vie, dans notre environnement ou dans le monde d'une façon objective et raisonnable. Objectif et raisonnable sont deux de ses mots favoris. Ce qui veut dire qu'il raisonne avec les faits, non avec les émotions, les ressentis ou les sentiments. Le mental ignore notre réalité émotionnelle. Peu importe l'intensité de ses émotions, il n'en tient pas compte et aime nous convaincre de faire de même. Pour lui, c'est une réalité subjective, confuse, qu'il préfère mettre de côté pour penser clairement et agir de façon efficace. C'est souvent très éloigné de la réalité, parfois assez catastrophique, mais c'est son avis. Malheureusement, en nous coupant de nos émotions, il nous coupe aussi de notre corps. Et cela arrive, nous allons le voir, très tôt dans notre vie. L'ampleur du mental rationnel dans notre civilisation occidentale. Son importance est extrême. Tout dans notre civilisation est fait pour le renforcer au détriment de nos autres capacités. Notre système scolaire est basé sur le développement et l'utilisation du mental rationnel. Réussir ou échouer dans ce système dépend essentiellement de notre capacité à le développer. Il est intéressant de se rendre compte que lorsque nous apprenons à parler, nous perdons notre connexion à la magie et au non-rationnel. Comme l'anglais et l'allemand, le français est une langue mentale. Elle porte les concepts des copersonnalités qui pensent de façon linéaire. L'espagnol, par exemple, a davantage de mots qui ont trait aux concepts liés à l'âme, à l'énergie subtile ou à des concepts non linéaires. Lorsque nous apprenons le français ou l'anglais comme langue principale, nous nous coupons de certains aspects magiques, énergétiques et subtils du monde et de nous-mêmes, essentiellement parce qu'il n'existe pas de mots pour les désigner ou les nommer. Puis notre système scolaire finit de tuer tout ce qui, en nous, n'est pas rationnel, en nous demandant de mettre notre sensibilité de côté, tout comme notre capacité à rêver, à capter l'invisible ou le subtil. Quant à l'émotionnel, il n'est le bienvenu nulle part. Les moqueries et les sarcasmes sont le lot de l'enfant qui reste trop longtemps sensible ou émotionnel et ne développe pas assez rapidement un bon rationnel. Par la suite, pour réussir notre vie professionnelle comme notre vie privée, pour avoir une place respectable dans le monde, nous devons avoir un mental rationnel qui fonctionne bien et même très bien. Sans sa présence, nous allons devenir essentiellement une victime par rapport aux normes de notre société et, à un niveau très profond, nous nous sentons en marge du monde, un peu perdus en fait. La relation du mental rationnel avec l'ensemble de la personnalité. Nous pouvons globalement classer nos copersonnalités en deux grandes familles. D'un côté, celles qui vont nous aider à agir et réussir dans le monde. Le mental en est le leader. Ce sont nos énergies impersonnelles. Leur champ énergétique est plus distant et ne vient pas au contact de celui de l'autre. L'émotionnel peut être présent, mais il n'est pas valorisé, il déborde. L'autonomie, l'overview, la clarté, l'efficacité, la rationalité, la logique sont les mots clés. De l'autre côté, nous avons les copersonnalités liées au cœur, au lien, à l'intimité. Ce sont nos énergies personnelles, plus chaleureuses, capables de créer un lien énergétique fort et intéressées par les interactions avec les autres. C'est un groupe de copersonnalités totalement différent. Maintenant, le mental aime penser qu'il peut très bien gérer toutes nos relations, même celles avec nos enfants, nos amoureux, les arbres, les chiens, les chats. En fait, un grand nombre de personnes utilisent leur mental pour gérer leurs relations personnelles et familiales. Ces personnes parlent de leurs sentiments, elles y réfléchissent, elles utilisent les capacités du mental pour les gérer jusqu'à ce que quelqu'un ou un événement les sépare de leur mental. Avant cette séparation, c'est lui qui prend la responsabilité de l'ensemble de leur vie, y compris leurs relations sentimentales, leur mariage, le lien avec leurs enfants. Il prend la responsabilité de tout, tout simplement parce qu'il pense être le seul à pouvoir le faire. Une personne identifiée à son mental pense ne pas avoir d'autre outil que lui, et le mental devient, par la force des choses, le leader de l'ensemble de la personnalité. Cela pose problème, car le mental rationnel fait partie des énergies impersonnelles. Même s'il peut devenir très enthousiaste à propos d'une idée ou avoir un aspect affable et convivial, il ne crée pas de connexion énergétique. Il ne s'en préoccupe pas, il ne sait pas ce que c'est, pas plus qu'il ne prend en compte les émotions et sentiments, sauf dans les cas où il accepte d'être associé dans la personnalité à une énergie plus personnelle. Les alliés du mental rationnel. Le mental rationnel va essentiellement se connecter à d'autres énergies mentales, celles qui cherchent à comprendre le monde et à le contrôler, tout comme à comprendre et contrôler notre environnement et les personnes qui nous entourent. Dans un premier groupe, nous pouvons citer le perfectionniste, le contrôleur ou protecteur-contrôleur et toutes les copersonnalités de pouvoir. Puis viennent le manipulateur ou le stratège. Le manipulateur fait partie de ce groupe d'énergie mentale et impersonnelle. C'est une copersonnalité assez impopulaire. Beaucoup de gens estiment que manipuler est négatif. En réalité, nous ne sommes pas intimes avec tout le monde, nous n'avons pas non plus une connexion au niveau de l'essence avec tout le monde. Beaucoup de personnes dans notre entourage doivent être gérées. Pour interagir efficacement avec elles, nous avons besoin de cette capacité à réfléchir et à planifier la manière dont nous allons agir. Comme toutes nos autres copersonnalités, nous devons être conscients de ce manipulateur ou de ce stratège et l'équilibrer par un opposé, si possible, venu du cœur. Mais il est loin d'être négatif. Autre allié d'importance, le scientifique. Le mental adore comprendre comment les choses fonctionnent. Il travaille avec les copersonnalités qui sont intellectuellement curieuses, qui veulent pouvoir comprendre et expliquer le monde. Lui-même n'est pas un scientifique, mais le scientifique en nous est un bon allié pour lui. Ensuite vient l'actif. L'actif va lui permettre d'apprendre, d'expérimenter et ainsi de savoir un maximum de choses. En général, la pile de livres sur notre table de chevet et le nombre de stages auxquels nous nous inscrivons signent la qualité de cet actif au service de notre mental. Le but, ne pas être pris en défaut d'ignorance. Je vais vous parler ensuite de l'observateur rationnel. Nous allons lui donner une place particulière. Bien sûr, il fait partie de notre mental. Lorsque nous demandons à notre facilité ou à toute autre personne, quand tu parles avec quelqu'un, est-ce que quelqu'un en toi observe ce qui se passe et ce que tu dis ? Invariablement, la réponse est oui. Quelqu'un observe ce qui se passe. Cet observateur est essentiellement là pour nous protéger et s'assurer que l'interaction se passera bien. Le plus souvent, c'est une énergie mentale. Nous le nommons l'observateur rationnel. Lorsque nous la repérons et commençons à nous séparer de lui, nous constatons que nous pouvons nous connecter d'une façon beaucoup plus proche et beaucoup plus nourrissante avec les autres. L'observateur rationnel et les émotions. Cet observateur observe tout, y compris nos émotions et nos sentiments. Il préférerait que nos émotions disparaissent au profit d'une pensée claire. Et dans ce but, il nous amène à analyser 10 fois, 100 fois, la situation qui a fait monter cette émotion. Il tourne en rond, car l'émotion est bel et bien là et il ne peut pas la gérer. Quant à nos sentiments, il aime qu'ils n'interfèrent pas trop avec tout ce qu'il considère comme important. Il remarque aussi chez les autres de petits indices qui lui donnent à penser qu'une émotion est là. La personne a son sourcil gauche qui tressaute, elle se frotte les lèvres, elle se tire le lobe de l'oreille, elle lisse une messe de cheveux entre ses mains, ou ses mains sont moites. Il peut reconnaître qu'une personne est émotionnelle, mais non entrer en empathie avec elle, c'est-à-dire ressentir la même chose. Il peut aider à prendre soin d'une relation, c'est un peu conceptuel, mais cela peut fonctionner. Cependant, ce qui manque à l'observateur rationnel, c'est la capacité à créer un lien énergétique et l'empathie. L'observateur rationnel et la spiritualité. Des chercheurs spirituels comme Gurdjieff et Ouspensky et de nombreux autres guides spirituels avait une compréhension relativement claire de la réalité des copersonnalités. Mais il n'avait pas de méthode pour décrocher les gens de leur mental. Ils ont demandé à leurs élèves de prendre du recul et d'observer leur fonctionnement. Mais lorsque vous prenez du recul et observez votre fonctionnement, qui se charge de vous observer? L'observateur rationnel. Une fois que cette copersonnalité s'installe dans la personnalité, une grande partie de l'essence de la spiritualité manque et l'aspect critique du mental peut se développer. Mindfulness, la pleine attention, est différente de cet observateur rationnel et donne des résultats différents. Quand l'observateur rationnel donne naissance à un tyran intérieur. Le critique est par essence une énergie mentale, ce qui explique que lorsque nous avons un mental puissant, nous avons aussi un puissant critique. Lorsqu'il existe un enfant traumatisé et terrifié, l'observateur rationnel s'allie aux critiques, aux perfectionnistes et aux grands comparateurs pour tenter de mettre cet enfant en sécurité. Avec le temps, cette équipe devient une entité inquiète qui nous surveille en permanence, doute constamment de nous, n'a pas la moindre indulgence envers nous et dont toutes les comparaisons sont négatives. Un tyran intérieur s'est développé. Ce tyran nous donne constamment le sentiment d'être illégitime lorsque nous ne savons pas tout, lorsque nous ne faisons pas tout bien, lorsque nous ne sommes pas parfaits, ou horreur lorsque nous sommes émotionnels. Ce tyran suscite un complexe d'infériorité et d'autocritique permanent. Il peut se décliner en un tyran spirituel, voire un grand inquisiteur. L'enfant trauma, au lieu d'être protégé, ce qui était le but de départ, continue d'être maltraité et méprisé. Les opposés du mental. Pour revenir sur les alliés du mental, ce sont donc d'une façon générale des énergies impersonnelles qui ont à cœur de nous voir réussir dans le monde et de nous donner un certain pouvoir. Lorsque le mental rationnel est l'élément dominant de la personnalité, l'autre groupe de copersonnalité, les énergies personnelles, est relativement dévalué, enterré ou au minimum sérieusement caché. Lorsque ces énergies retrouvent leur place dans la personnalité, le mental lui-même devient plus performant. Il est à sa place, il fait son job et laisse les autres copersonnalités faire le leur. Dans ces opposés, nous pouvons citer tout d'abord les copersonnalités relationnelles. Ce sont celles qui savent créer un lien énergétique fort. Elles sont sensibles, elles sont sensitives, elles aiment maintenir des liens chaleureux, intimes et pacifiques en général. Elles aiment interagir avec les autres, tout particulièrement lorsqu'une profonde connexion énergétique est nécessaire. Citons la mer dans de nombreux aspects et la mer océanique tout particulièrement. Citons tous les pères, mères aimants et indulgents, l'approbateur, le gentil, l'altruiste, celui qui aime plaire, celui qui aime l'harmonie, l'enfant vulnérable, l'enfant joueur, et toutes les copersonnalités qui aiment et qui ont besoin d'une relation chaleureuse. Un autre opposé du mental est le rêveur, celui qui peut simplement lâcher prise et laisser la fantaisie et les rêveries surgir, celui qui peut défocaliser, laisser son esprit et son attention flotter, celui qui peut fusionner avec son environnement. L'intuitif est un autre opposé. Alors, il existe une intuition mentale qui fonctionne un peu comme une intelligence artificielle. Elle liste un grand nombre de paramètres, plus ou moins conscients, et nous donne le résultat très rapidement. Cette intuition est en fait assez rationnelle et le mental peut l'accepter. Mais l'intuition qui vient d'une connaissance intérieure, de la perception de données d'ordre subtil, celle qui est en lien avec l'invisible, est complètement en dehors de son champ, tout comme l'intuition liée au sens corporel ou à l'instinct. Il doute de ces intuitions-là, comme il doute des connaissances qui viennent d'un ressenti physique ou émotionnel. Le mental a une grande faculté de concentration. La clarté et la focalisation sont deux qualités qu'il vénère. Aussi, tout ce qui est diffus, vague, plutôt que précis et clair, est perçu négativement. D'autres opposés, l'irrationnel, bien sûr, l'artiste, le mystique, l'enfant magique. L'irrationnel, d'une façon générale, est un domaine inacceptable pour le mental. Ce n'est pas pour rien que nous le nommons le mental rationnel. Il est fondamentalement logique et rationnel. Toutes les copersonnalités non rationnelles sont reniées lorsque le mental est aux commandes. Tout le domaine mystique et spirituel est une bizarrerie pour lui. Le mental estime que les phénomènes mystiques et spirituels sont simplement des phénomènes que la science n'a pas encore compris. Inutile de dire que dans cette logique, tout ce qui est magique ou qui touche à l'âme n'est pas non plus sa tasse de thé. Souvent, il va nier à la fois la réalité de ses expériences et les copersonnalités qui font ces expériences. Un autre opposé est l'état d'être. Il nous est très difficile lorsque notre mental est notre partie primaire de ne rien faire. L'idée d'être sans rien faire, sans parler, est absolument incongrue pour lui et contraire à sa manière de fonctionner. Il doit parler, il doit penser. Le mental ne voit aucune valeur à être assis avec un autre être humain et à simplement être. Pour lui, cela n'a aucun sens et aucun intérêt. Ensuite, le grand opposé du mental va être l'enfant vulnérable. La vulnérabilité, c'est clairement quelque chose de renié pour une personne qui a son mental en partie primaire. Bien sûr, il est possible d'accepter le concept de l'enfant vulnérable, mais être vulnérable sera interdit. Il existe de nombreuses autres copersonnalités qui aimeraient tuer la vulnérabilité ou l'étouffer. Le mental n'est pas la plus virulente, mais c'est certainement la plus active d'entre elles. Une autre partie reniée est la faculté de ne pas savoir. Dieu nous préserve de ne pas savoir. Nous devons tout savoir, nous devons connaître toutes les réponses, nous devons avoir toutes les explications. Nous devons être capables de réfléchir et de répondre au quart de tour. Nous devons être vifs et réactifs, ce qui est totalement épuisant. Retrouver notre capacité à ne pas savoir, à savoir que nous ne savons pas, à accepter qu'il y ait des choses au-delà de nos capacités de compréhension, amène une détente dans ce système. Un des grands paradoxes du mental est bien qu'il soit, par essence, l'expert et celui qui sait, il doute en permanence de tout ce qui n'est pas immédiatement perceptible par nos cinq sens. Bien sûr, douter, remettre en question font partie de son job. Mais lorsqu'il perd sa sécurité ou se trouve confronté à des événements qui ne sont pas de son ressort, comme gérer nos émotions par exemple, ce paradoxe peut le rendre épuisant pour nous comme pour les autres. Nous avons besoin d'un ego conscient de la valeur de ce mental et conscient d'un approbateur qui fait confiance à notre mémoire, nos expériences, nos acquis et valorise nos intuitions, nos capacités non rationnelles et nos talents. Nous allons revenir maintenant sur l'absence de connexion énergétique. Les copersonnalités mentales ne sont pas connectées au corps. Elles nous donnent la capacité d'opérer dans le monde avec pouvoir et autorité, mais ne créent pas de connexion énergétique, ni avec nous-mêmes, ni avec les autres. C'est cette connexion qui nous donne la capacité de percevoir et de ressentir notre corps et celui des autres, et qui leur donne la permission de nous percevoir et de ressentir ce qui nous traverse. Lorsque nous sommes dans nos énergies mentales orientées vers l'action, cette connexion manque. Il existe un lien mental, mais non une connexion corporelle, émotionnelle, énergétique. Avec un bon mental rationnel, nous pouvons comprendre une autre personne. Nous pouvons comprendre pourquoi elle ressent ce qu'elle ressent. Cependant, nous n'avons pas de connexion empathique. Nous ne pouvons pas saisir émotionnellement et énergétiquement ce qu'elle ressent, même si nous sommes capables de le conceptualiser. Il arrive parfois de confondre le fait d'être affable ou convivial avec la capacité à créer un lien énergétique. Or, une personne peut être aimable et accueillante sans cependant créer un réel lien énergétique. De même, il peut exister des personnes très impersonnelles, donc qui ne créent pas de lien énergétique et qui sont extrêmement sentimentales, et des personnes qui savent créer une connexion personnelle et chaleureuse, un lien énergétique, mais qui ne sont pas sentimentales. Le lien énergétique est très précis, c'est quelque chose de réel et de tangible. Quand une personne mentale dit « je t'aime », elle est sincère. Quand son partenaire lui dit qu'il ou elle ne le ressent pas, c'est une réalité aussi. Le mental s'irrite, il ne comprend pas ce qui se passe, il ne réalise pas qu'il ne crée aucune connexion énergétique quand il parle. Même si ce partenaire ne sait pas dire exactement ce qui lui manque, il ressent ce manque. En général, ses copersonnalités primaires sont beaucoup moins mentales. Globalement, le mental rationnel n'est pas dans le corps. Une personne avec un mental rationnel performant ne va jamais sentir sa fatigue, son besoin de s'étirer, de faire une pause, de manger, de dormir, de jouer. Ce n'est que lorsque cette énergie mentale se retire que toutes ces sensations vont brusquement l'envahir. C'est une des raisons pour laquelle nous ne réagissons pas lorsqu'une autre personne nous blesse au cours d'une conversation. Nous sommes principalement dans une énergie mentale. Ce n'est que beaucoup plus tard, lorsque l'enfant vulnérable arrive dans notre corps, que nous réalisons à quel point nous avons été blessés. Le critique peut nous reprocher de ne pas savoir nous défendre ou de ne pas savoir mettre nos limites. Mais lorsque notre énergie est kidnappée par une copersonnalité mentale, nous ne ressentons pas la blessure. Nous n'éprouvons pas le besoin de nous protéger, sur le moment. Le mental est son opposé émotionnel dans la vie de couple. Lorsque dans un couple, l'un est identifié à son mental et l'autre à sa partie émotionnelle, des schémas d'ancrage redoutables arrivent. Les deux personnes peuvent se pousser mutuellement dans un espace où n'existe plus aucune possibilité de s'entendre. Il s'agit d'une relation entre deux opposés qui se rendent mutuellement fous. La personne rationnelle devient de plus en plus rationnelle et la personne émotionnelle devient de plus en plus émotionnelle. Les deux personnes parlent deux langues différentes, utilisent deux logiciels différents, elles ne communiquent pas et elles peuvent s'acharner l'une sur l'autre. Le mental ne peut pas se rendre. Sa couleur fondamentale est la connaissance, l'expertise et le contrôle. Il a besoin d'avoir le dessus. Il a un millier d'explications qui lui donnent raison. L'émotionnel ne peut pas lâcher face à ce mental contrôleur. C'est souvent ressenti comme une question de survie. Il est mieux d'être vigilant et de contourner ses ancrages jusqu'à ce qu'il soit possible de s'en servir pour sortir de ses parties primaires. Le mental est une copersonnalité envahissante. Bien sûr, il est envahissant dans notre vie personnelle. Lorsqu'il est notre partie primaire, soit nous pensons, soit nous parlons. Même assis en silence, toutes sortes de pensées nous envahissent. Il est rare que nous ressentions. C'est aussi une énergie qui peut nous vider. Par exemple, nous passons plusieurs heures avec un ami à parler, à discuter, nous échangeons toutes sortes d'idées. C'est exaltant, excitant. Puis nous rentrons chez nous et nous sommes vidés. Nous ne savons pas exactement pourquoi. En fait, les facettes qui savent créer une connexion nourrissante, une connexion qui peut nous ressourcer, étaient absentes. Elles ont été reléguées au second plan par le mental qui, lui, adore parler, discuter, échanger. Cette énergie peut aussi envahir les séances de vos dialogues. Souvent, le mental intervient et prend la place de la copersonnalité qui est présente. Lorsque nous travaillons avec l'énergie d'être, par exemple, le mental s'active et cherche à revenir sur le devant de la scène, même si on lui a déjà parlé avant. Il faut un certain temps avant de pouvoir l'apaiser et rester simplement en lien avec la copersonnalité être. Ou encore, lorsqu'une partie vulnérable est présente, le facilité commence à parler à partir de cette copersonnalité vulnérable, puis très souvent, son mental intervient et reprend le contrôle. Oh, c'est très intéressant. C'est la raison pour laquelle telle ou telle chose se produit. C'est la raison pour laquelle elle ne peut pas donner de consignes claires à son jardinier, par exemple. Le mental se met à analyser, tout heureux d'avoir un nouveau matériel qui lui permet de mieux comprendre. Lorsque l'enfant magique vient dans une séance de Vos Dialogues, lorsque nous accédons à cette délicieuse imagination, cette beauté, cette fantaisie, cette poésie, ces perceptions incroyables, il est infiniment triste de réaliser que toute cette partie a été interdite et enfermée vers l'âge de 3, 4 ou 5 ans, qui est son geôlier, essentiellement le mental rationnel. Se débarrasser du mental rationnel. De nombreux systèmes spirituels parlent de la nécessité de se débarrasser du mental qu'ils assimilent très souvent, avec raison, à l'ego. Le mental domine effectivement si souvent notre ego fonctionnel qu'il est possible de les confondre. Cependant, tenter de se débarrasser de l'un ou de l'autre n'est pas une très bonne idée. L'ego est un contenant nécessaire à la vie en 3D. Et toute personne qui essaie de se débarrasser de son mental aura beaucoup de mal à s'adapter à la complexité de notre planète et de cette vie en 3D. De plus, cela ne va faire que le renforcer. Tout ce contre quoi nous luttons se renforce, et tout ce qui est renié ou désavoué passe dans l'inconscient et perd sa forme naturelle. Quand on met le mental à la porte, il revient par la fenêtre et reste dominant à notre insu, parfois sous un autre nom. Bien sûr, le mental est envahissant, mais chercher à l'éradiquer ne fonctionne pas, et penser l'avoir éradiqué n'est jamais la réalité. Il est extrêmement précieux lorsque nous travaillons avec des personnes qui pensent avoir mis leur mental de côté, de les séparer de la nouvelle forme prise par ce mental. Souvent, un observateur rationnel confondu avec l'état de témoin ou la vision consciente, voire avec la conscience elle-même, où il peut se cacher derrière une énergie dite spirituelle. Le mental peut prendre de nombreuses formes. C'est une énergie volatile, il n'est pas lié au corps. Il peut nous faire croire qu'il est tout, un arbre, un rocher, un oiseau, sauf ce qu'il est, le mental. Le but n'est pas de se débarrasser de lui, il est trop précieux. C'est de s'en dissocier afin d'avoir une relation juste avec lui et de pouvoir, lorsque nous le souhaitons, être dans une profonde connexion avec ce que nous aimons ou ce que nous souhaitons. Le mental est un bon serviteur lorsque nous redevenons le maître à bord. Exemple d'une facilitation. Parler du mental est intéressant. Pouvoir l'écouter dans des séances de Vos Dialogues l'est encore plus. Une façon de lui montrer ses limites est de le comparer au software d'un ordinateur, même si ça ne lui plaît pas beaucoup. Nous pouvons lui expliquer qu'il est un logiciel qui ne peut analyser qu'une seule sorte de données, celles qui sont rationnelles. Il gère une énorme, une extraordinaire quantité de données. Mais il existe un certain nombre d'autres données, toutes aussi importantes, qui ne sont pas de son ressort. Il ne peut pas gérer les données relatives aux émotions, aux sentiments, à l'intuition, aux ressentis physiques, ni les perceptions énergétiques et subtiles. Le mental peut saisir ce que nous disons, même si assez souvent, il proteste qu'il est l'utilisateur et non le logiciel. En réalité, avant tout travail de séparation, il pense qu'il est tout. L'ordinateur, le hardware, le software, l'utilisateur, l'écran et l'imprimante. L'interviewé dans une séance de Voice Dialogue permet de mieux le comprendre. Voici un extrait d'une séance fictive proposée par Sidra dans un but didactique. Sidra va interviewer Andrew et réussir à le séparer un tant soit peu de son mental. Andrew est un chercheur scientifique qui, bien sûr, suivant la loi d'attraction, a épousé une femme plutôt identifiée à ses émotions. Andrew vient voir Sidra parce que sa femme le lui demande depuis plusieurs années. Elle lui reproche d'être trop mentale, de ne pas être connectée à ses émotions, elle est mécontente de leur relation et aujourd'hui, elle menace de divorcer. Andrew ne désire pas divorcer. En bon mental rationnel, il a finalement accepté de venir voir Sidra pour découvrir ce qui se passe et éventuellement trouver une solution, même s'il doute complètement que le Voice Dialogue puisse mener à quelque chose. Alors, pour les besoins de ce podcast, je ferai la voix de Sidra et Jean, mon tendre et cher époux, fera Andrew. Je peux comprendre que vous n'ayez pas confiance dans ce processus.
Eh bien, l'idée de me diviser en parties me semble folle. Très honnêtement, c'est ce que je ressens. Je sais que ce n'est pas fou parce que vous n'êtes pas folle, mais l'idée me paraît folle et un peu angoissante. Je n'aime pas l'idée de me diviser en parties.
Il existe des recherches très intéressantes qui suggèrent qu'il pourrait y avoir des personnalités différentes dans des zones différentes de notre cerveau. Mais laissons ça. Et jetons plutôt un coup d'œil à ce mental que votre femme attaque. Ce mental est la partie de vous qui gère une grande partie de votre vie quotidienne. Seriez-vous d'accord pour lui donner un autre siège que ce siège central? J'aimerais parler à cette partie de vous qui aime résoudre les problèmes et comprendre.
Je vais m'asseoir sur cette autre chaise, mais je dois vous dire que j'ai l'impression de jouer la comédie. Où que je me déplace, je serai toujours la même personne. Juste pour que vous le sachiez, mais je veux bien essayer.
D'accord. En fait, Sidra parle depuis le début de la séance avec le mental d'Andrew. Mais maintenant, elle va tenter d'objectiver ce mental, puis de séparer Andrew de ce mental, et d'obtenir ainsi un espace d'ego conscient pour Andrew, par rapport à son mental. Andrew se déplace et Sidra s'adresse alors directement au mental rationnel.
Voilà, je suis là.
Bonjour. J'aimerais en savoir un peu plus sur vous et sur la manière dont vous fonctionnez dans sa vie.
Eh bien, je suis Andrew. Je dirige sa vie, je dirige ses recherches, je dirige tout ce qu'il fait, je suis Andrew. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, je fais tout.
Vous dirigez aussi sa vie de famille ?
Bien oui. Je veux dire, en gros, oui. Je pense à tout ce qu'il doit faire. J'observe tout. Par exemple, quand sa femme parle, j'écoute, j'observe, je fais attention à ce qu'elle dit. Soit ça a du sens, soit ça n'en a pas. Je veux dire, beaucoup de ce qu'elle dit a du sens, mais une autre partie n'a aucun sens pour moi. Même si j'ai vraiment l'impression de l'écouter et d'être avec elle. Ensuite, elle dit que je ne suis pas avec elle. Ça me rend fou quand elle dit ça, je ne comprends pas. Au travail, c'est moi qui suis là aussi. Je fais mon travail, je suis responsable de la direction et de l'orientation des recherches. Je travaille avec des collègues, ils ne se plaignent jamais de moi d'ailleurs. Les collègues d'Andrew m'adorent.
J'en suis certaine, car vous êtes capable de vraiment cerner les choses et d'aider à diriger ce groupe.
Oui, j'aide aussi nos enfants à comprendre la vie. Je les aide à donner un sens au monde. Ma femme se fâche quand je fais ça. Je ne sais pas ce qui la met en colère. J'ai l'impression de remplir une fonction importante auprès d'eux. Elle dit que je ne passe pas du temps de qualité avec eux. Ça me rend fou.
Oui, j'imagine. J'imagine que c'est vous qui passez beaucoup de temps à faire exactement ce que vous savez faire et vous le faites très bien, mais votre femme se plaint que vous ne le faites pas bien.
C'est ça. Je dois être honnête et dire que, avant de me marier, d'autres femmes m'ont dit des choses similaires. Je veux dire, ce n'est pas la première fois qu'on me fait ce genre de reproche, c'est la raison pour laquelle je suis venue.
Oui, lorsque vous voyez un problème, vous voulez savoir comment le résoudre.
Absolument. Et je reconnais que plusieurs personnes différentes m'ont dit que je ne suis pas tout à fait comme eux.
Vous savez, vous êtes une sorte de logiciel. Vous êtes comme l'un de ces logiciels très performants d'analyse de données. Vous êtes très bon dans ce que vous faites, mais vous ne pouvez pas prendre soin des émotions et des sentiments.
Je crois plutôt que je suis l'ordinateur et pas le logiciel. Ce serait beaucoup plus compatible avec ce que je fais.
Vous pilotez et dirigez énormément de choses. Si je devais choisir une seule copersonnalité et abandonner toutes les autres, je pense que je vous choisirais. Parce que vous savez gérer. Vous gérez magnifiquement. Avez-vous toujours été présent dans la vie d'Andrew ?
Ah, je crois que je suis là depuis très, très, très longtemps. Je pourrais me souvenir d'un temps où je n'étais pas là, mais c'était vraiment il y a très longtemps. Oui, très longtemps.
Bien. Voici ce que nous allons faire maintenant. Je vais vous demander de revenir à la chaise centrale qui représente Andrew dans sa totalité, pour que nous puissions voir s'il existe une différence entre lui et vous. Vous êtes l'une de ces copersonnalités, non Andrew. Alors voyons s'il existe une différence lorsque c'est vous qui êtes aux commandes ou lorsque c'est lui.
Je ne vois pas comment il pourrait y avoir une différence.
D'accord, mais essayons. Vous voulez bien retourner là où Andrew était assis au départ ?
D'accord.
Bonjour.
Bonjour.
On dirait qu'il existe une différence. Je ressens quelque chose de différent. Vous sentez-vous différent ?
Eh bien, c'est assez étrange, mais oui, je me sens différent. Je ne sais pas comment décrire ça. C'est comme... Je ne sais pas. Je dirais que je ressens plus de chaleur quand je vous regarde. Quelque chose comme ça.
Oui, c'est ça. Jusqu'ici, lorsque nous parlions, c'était plutôt un échange intellectuel. Maintenant, l'échange est plus complet. Le corps et le cœur sont impliqués.
La seule chose que je sais, c'est que c'est plus difficile de parler ici. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans un moment comme celui-ci. Je ne peux pas penser, je ne sais pas ce qui se passe. Alors je deviens nerveux.
Je vois. Il existe un malaise chez Andrew et vous, le mental, revenez pour gérer la situation. C'est ce qui vient de se passer. Donc, revenons à la chaise du mental. Andrew se déplace. Alors, quelque chose vous a rendu nerveux ?
Oui, quelque chose m'a rendu très nerveux. Le lien avec vous était dérangeant, différent de ce à quoi je suis habitué. Cela manquait de distance, ça m'a mis mal à l'aise. Quand je suis ici, je ne suis pas du tout nerveux. Je suis très à l'aise dans le monde.
Oui ?
Je me sens bien dans ma peau. Je suis à l'aise sur cette chaise.
Oui, nous pouvons nous parler de personne à personne. Rien ne vient interférer. Donc, il existe bien une différence entre Andrew et vous. Vous êtes clair, vous parlez rapidement et facilement. Quand Andrew passe dans cet autre espace, cet espace central, séparé de vous, c'est un peu différent. Maintenant, je vais demander à Andrew de revenir dans cet espace où il est séparé de vous. Êtes-vous d'accord ?
Bon, si vous voulez.
Il se déplace. De nouveau, ressentez la différence dans la connexion énergétique qui existe entre nous deux.
Vous savez, c'est étrange. Je me souviens maintenant que je suis assis ici, qu'il y a eu une période dans ma vie où ce sentiment de chaleur avec l'autre était présent. Je n'avais pas plus de 3 ou 4 ans et j'aimais ça.
Que s'est-il passé ?
Ah, je crois que je vivais dans mon monde. Mes parents disent que j'étais un enfant rêveur. Puis il y a eu l'école. Je n'y arrivais pas, mes parents étaient mécontents. Ils me grondaient pour des trucs que je ne comprenais pas. Ils disaient que je ne faisais pas attention. C'est encore ce qu'ils disent quand ils me parlent de mon enfance. Je crois que ce revers était là tout le temps. Il a été beaucoup puni. Puis j'ai commencé à faire attention et cela a été mieux pour moi.
Je comprends. Lorsque vous êtes assis sur cette chaise du milieu, vous pouvez presque ressentir ce rêveur de l'autre côté de vous, du côté opposé à votre mental.
Oui.
Nous n'allons pas aller lui parler maintenant. Sentez simplement que vous êtes maintenant assis entre le rêveur et le mental. Et du coup, vous et moi avons un autre type de connexion. Peut-être une connexion qui ressemble davantage à celle que vous aviez avant que le mental n'arrive pour gérer ce qui se passait, pour que cela aille mieux pour vous.
Ce serait ce qui manque à ma femme, ce genre de connexion, ce que je ressens avec vous maintenant ?
Oui, c'est cette connexion qui lui manque. Maintenant, retournons au mental une fois de plus et parlons de cela.
Vous savez ce qui ne va pas avec cet espace central ? Je n'arrive pas à y fonctionner. C'est comme si Andrew ne pouvait pas parler. Il semble complètement vulnérable et j'ai l'impression de ne pas pouvoir m'exprimer comme je veux.
Disons que vous maîtrisez mieux la situation lorsque vous vous trouvez à cette place et que la partie plus vulnérable d'Andrew, son enfant rêveur, n'interfère pas. Vous pouvez parler plus rapidement et penser plus rapidement, mais vous ne pouvez pas créer le lien que sa femme demande. Retournons, voulez-vous, à cet espace du milieu et voyons si nous pouvons améliorer les choses. Voyons si Andrew peut s'exprimer sans que ce soit vous qui parliez, mais sans être trop paralysé non plus. Voyons s'il peut garder le lien et pourtant s'exprimer.
D'accord.
L'habileté à acquérir, c'est d'apprendre à parler d'une manière qui nous permette d'être présents et en lien, de ne pas laisser notre mental diriger l'interaction. Nous restons en lien, nous sommes présents à l'autre et nous pouvons quand même penser et élaborer. Nous n'avons pas besoin de rompre la connexion pour pouvoir traiter les informations de manière rationnelle et linéaire. Donc, en restant en lien, pourriez-vous me parler de quelque chose qui ait du sens pour votre mental ?
Eh bien, ce qui me vient à l'esprit, c'est d'essayer de compter et de rester en lien. Si je compte à rebours, à partir de 200, ça ferait 199, 198, 197, 196. C'est difficile, c'est lent, mais je pense que je commence à comprendre de quoi il s'agit. Bon, ce n'est vraiment pas facile de faire ça et de rester en lien avec vous.
Oui, ça demande de la pratique. Ce que nous faisons en ce moment est très important. S'entraîner à parler, à utiliser notre mental tout en maintenant une réelle connexion. Nous appelons ça canaliser notre mental à travers un ego conscient. Ainsi, nous ne perdons pas notre capacité à penser. Nous ne perdons pas la richesse et la capacité de concentration de notre mental et nous ne perdons pas non plus notre capacité à être en lien. C'est ce que votre femme désire. Le mental est l'espace d'ego conscient. Dans cette démonstration inventée par Al et Sidra à partir d'un grand nombre de facilitations réelles, nous avons une toute première séparation entre une personne et son mental. Il est rare que cela se fasse aussi facilement, mais pour tout facilitateur, cela nous donne la direction à suivre. Andrew est arrivé totalement identifié à son mental rationnel. Ce mental était qui il était, ce que nous nommons sa partie primaire. Mais le mental lui-même réalisait que quelque chose n'allait pas et posait des problèmes répétitifs. En bon esprit scientifique, il a été d'accord pour regarder ce qui se passait. La première étape a été de l'identifier en tant que partie primaire et de commencer à donner à Andrew le sentiment que son mental n'était pas tout ce qu'il était. Andrew, comme le mental, a perçu la différence entre les deux types de connexions qui se sont établies avec le facilitateur. Sidra tenait sa preuve, Andrew et le mental étaient deux entités différentes. Puis, Andrew a commencé à se souvenir de cet enfant vulnérable, rêveur, magique qu'il avait été. Il s'est souvenu de qui il était avant le développement du mental. Le lien énergétique entre facilitateur et facilité. Andrew a eu besoin du lien avec le facilitateur pour ressentir la différence de lien entre celui établi par sa partie mentale et celui qui s'est établi lorsqu'il a été quelque peu séparé de son mental et que son enfant rêveur a pris l'espace libre. C'est une des fonctions du facilitateur dans le travail de Voss Dialogue. Mettre l'attention sur le lien énergétique, amener la conscience du facilité sur la nature du lien en fonction des différentes énergies qui s'invitent en lui. Andrew n'aurait pas eu le moyen de ressentir la différence entre une connexion personnelle et une connexion impersonnelle sans le facilitateur. Sans un autre être humain avec qui vivre ce lien consciemment, nous ne pouvons pas comprendre ce qui se passe. Le facilitateur aide à maintenir cette connexion énergétique. Dans ce cas, c'est littéralement comme s'il pompait dans l'énergie personnelle pour la rendre plus forte et aider le facilité à prendre conscience de cette connexion, puis l'aider à la maintenir, jusqu'à ce qu'il puisse le faire seul. En tant que facilitateur, quand nous sommes dans un espace d'ego conscient, nous pouvons sentir lorsque le mental de notre facilité commence à envahir l'espace central. Nous pouvons alors décider de faire un certain nombre d'allers-retours entre le mental et l'espace central pour que cette différenciation entre la personne et son mental devienne de plus en plus nette, lorsqu'elle est possible. Parfois elle ne l'est pas, ou pas encore. Le processus d'ego conscient. Dans cette facilitation, quelque chose est extrêmement important. Sidra ne va pas interviewer l'autre côté. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour l'instant, cet enfant rêveur est encore une énergie relativement reniée. C'est un opposé du mental et le mental est encore tout puissant. Si le facilitateur tente d'interviewer cet enfant, il est probable que très rapidement, le mental reviendra et parlera de cet enfant. Ce sera certainement intéressant, mais le facilitateur se retrouvera avec d'un côté la place du mental et de l'autre côté, à nouveau, le mental qui parle de l'enfant rêveur. Ce qui sera perdu, c'est ce point de référence qui a été créé. La différence énergétique qui existe dans le lien avec Sidra lorsqu'Andrew est dans son mental ou lorsqu'il est un peu séparé de ce mental grâce à la venue dans ses énergies de cet enfant rêveur qui aime le lien et sait le créer. Dans cette séance, qui en résume beaucoup d'autres, Sidra aide Andrew à construire un ego conscient de son mental et de la façon dont son mental est à l'aise dans un lien impersonnel et beaucoup moins dans un lien personnel. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est exactement ce dont Andrew a besoin pour avancer dans ses relations personnelles. Commencer à accepter de vivre en créant un lien énergétique, même si cela met son mental mal à l'aise. Il ne peut plus être aussi présent, ni tout gérer et contrôler. Dans cette séance, ou dans une séance comme celle-ci, non seulement Andrew s'est transformé, mais son mental s'est également transformé. L'un et l'autre ont maintenant un point de référence qui n'existait pas auparavant. Andrew restera probablement toute sa vie une personne plutôt mentale. Cependant, sa connexion avec les autres et avec ses propres émotions pourront largement s'améliorer. Est-ce que sa femme sera satisfaite? Cela reste à voir, et ce sera sans doute plus facile pour quelqu'un comme Andrew de continuer à développer sa capacité à créer un lien avec une personne beaucoup moins critique envers sa partie primaire. En conclusion, nous séparer de notre mental est difficile et demande de la vigilance. Séparer notre facilité de son mental l'est tout autant. Cela nous demande de mettre toute notre attention sur le lien et de revenir à cette séparation aussi souvent que nécessaire au cours de la thérapie. Gardons en mémoire que le voice dialogue est une technique très sophistiquée qui ne convient pas à tout le monde. Certaines personnes ne désirent pas changer de chaise et nous ne devons jamais insister. Certaines personnes n'ont pas non plus la finesse énergétique d'un Andrew. Nous pouvons cependant toujours accueillir, nommer et honorer le mental. Lorsque nous sommes séparés du mental, un monde s'ouvre à nous. Nos relations fonctionnent de mieux en mieux, elles sont de plus en plus satisfaisantes et nourrissantes. Le monde de l'invisible, soit 90% de la réalité selon certains, nous devient accessible. Ainsi se termine la première partie de ce podcast sur le mental rationnel. Je vous ferai une seconde partie d'ici quelques temps. C'était Véronique Brard. Je vous remercie de votre écoute. Vous retrouverez le texte de ce podcast sur notre site voice-dialogue-france.fr et vous trouverez aussi sur ce site tous les livres de Hall et Sidra Stone.